La deuxième personne, qu'Eddie rencontre au ciel.
Eddie sentit ses pieds toucher le sol. Le ciel changea à nouveau de couleur. De bleu cobalt, il devint gris foncé et Eddie se retrouva entouré d'arbres couchés et de gravats noircis. Il palpa ses bras, ses épaules, ses cuisses et ses mollets. Il avait l'impression d'être plus fort qu'auparavant. Sauf que, lorsqu'il essaya de toucher ses orteils, il n'y arrivait plus. Sa souplesse s'était envolée. Finie la sensation enfantine d'être en caoutchouc. Le moindre de ses muscles était à présent dur comme un roc. Il jeta un regard circulaire autour du terrain désert. Sur une colline voisine gisait une nacelle en 1000 morceaux et les os en décomposition d'un animal quelconque. Eddie sentit une chaude bouffée de vent lui balayer le visage, tandis que le ciel explosait en un jaune flamboyant. Il se remit alors à courir. Il courait différemment maintenant, à la manière dure et cadencée d'un soldat. Il entendit le tonnerre, ou quelque chose d'approchant, des explosions, à moins que ça n'ait été le souffle des bombes, et se laissa instinctivement tomber par terre, atterrissant sur l'estomac et avançant ensuite sur ses avant-bras. Le ciel s'ouvrit en deux et déversa une averse épaisse et brunâtre. Eddie baissa la tête et continua de ramper dans la boue, recrachant l'eau sale autour de ses lèvres. Il finit par sentir sa tête frôler quelque chose de solide. Il leva les yeux et vit un fusil planté dans le sol avec un casque posé dessus et des plaques d'identité pendant de la crosse. Les yeux papillonnant à cause de la pluie, il tâta les plaques, puis, terrifié, recula à quatre pattes dans un mur poreux fait des lianes filandreuses qui pendaient d'un impressionnant banian. Il plongea dans leur obscurité, se recroquevilla et tenta de reprendre son souffle. Même au ciel, la peur l'avait débusqué. Le nom sur les plaques d'identité, c'était le sien. Les jeunes gens partent à la guerre, parfois par obligation, parfois par choix. Dans les deux cas, ils ont toujours l'impression que c'est un devoir, parce que de tristes légendes humaines se sont suivies au fil des siècles qui ont encouragé un fâcheux amalgame entre avoir du courage et prendre les armes ou être lâche si on les rend. Quand son pays entra en guerre, Eddie se réveilla de bonne heure par un matin pluvieux. Il se rasa, peignit ses cheveux vers l'arrière et partit s'engager. Puisque les autres se battaient, il se battrait aussi. Pas question pour sa mère de le laisser partir. Quant à son père, une fois mis au courant, il alluma une cigarette et en souffla lentement la fumée. « Tu pars quand ?» fut sa seule question. Puisqu'il ne s'était jamais servi d'un vrai fusil, Eddie commença son entraînement au stand de tir de la fête foraine. Pour 10 cents, la carabine bourdonnait. On pressait sur la détente et on tirait alors de la mitraille sur des reproductions d'animaux sauvages, des lions ou des girafes. Eddie y allait chaque soir, une fois vérifié les leviers de freinage du petit train. Ruby Pier s'était effectivement adjoint de nouvelles attractions, moins imposantes, les montagnes russes coûtant trop cher à entretenir depuis la dépression. Le petit train portait bien son nom puisque ses wagons lui arrivaient à la cuisse. Avant de s'engager, Eddie avait travaillé pour économiser l'argent qui lui permettrait de faire des études d'ingénierie mécanique. Il rêvait de construire, même si son frère n'arrêtait pas de lui seriner. « Mais enfin, Eddie, t'es pas assez intelligent pour ça. » Dès le début de la guerre, les affaires ralentirent à Ruby Pier. La plupart des clients d'Eddie étaient maintenant des mères seules avec enfants, puisque les pères étaient partis au front. Parfois, les enfants demandaient à Eddie qu'il les prenne sur ses épaules, mais quand ils s'exécutaient, ils ne pouvaient s'empêcher de remarquer le triste sourire de leur mère. Le geste était bien le bon, mais la paire de bras ne l'était pas. Eddie se disait que bientôt lui aussi irait rejoindre ses hommes au loin, et que c'en serait alors fini de ses journées passées à graisser des rails et actionner des leviers de frein. La guerre en ferait un homme, et peut-être même qu'il manquerait à quelqu'un, lui aussi. Au cours d'une de ces dernières soirées, Eddie était penché sur la carabine du petit stand de tir, où il s'appliquait de toutes ses forces. Bang, bang! Il essayait de s'imaginer tirant sur l'ennemi pour de vrai. Bang! Y aurait-il un bruit quand ses balles l'atteindraient? Bang! Ou tomberait-il très simplement, comme ses lions et ses girafes? Bang, bang! « On s'entraîne à tuer, mon gars !» Derrière lui, Mickey chie, avec ses cheveux jaunes, sales, mouillés de sueur et le visage aviné. Eddie haussa les épaules et reprit son tir. Bang! Bang! En plein dans le mille. Bang! Et là aussi. Hum! Grogna Mickey. Eddie aurait de beaucoup préféré que le vieil ivrogne s'en aille et le laisse s'entraîner en paix. Il entendait sa respiration laborieuse, le sifflement nasal de ses inspirations et expirations qui lui rappelait un pneu de vélo que l'on gonfle. Eddie continuait de tirer. Il sentit tout à coup qu'on lui agrippait douloureusement l'épaule. « Écoute-moi, mon gars, » gronda Mickey à voix basse. « C'est pas un jeu, la guerre. S'il faut tirer, tu tires. Tu piges, sans remords et sans hésitation. Tu tires encore. Et tu penses pas à celui sur qui tu tires, ni que tu tues, ni pourquoi t'as pigé. Si t'as envie de rentrer chez toi, tu tires. Tu réfléchis pas. » Il serra encore plus fort. « Si tu réfléchis, t'es foutu. » Eddie se retourna et le dévisagea. Mickey lui donna un coup sec sur la joue et Eddie leva instinctivement le poing pour lui rendre l'appareil. Mais Mickey rota et recula en vacillant. Puis il regarda Eddie et on l'aurait dit sur le point de pleurer. La carabine de foire cessa de bourdonner. La pièce d'Eddie était épuisée. Les jeunes gens partent à la guerre, parfois par obligation et parfois par choix. Quelques jours plus tard, Eddie faisait son sac et laissait Ruby Pierre derrière lui. La pluie s'arrêta. Réfugié sous le banian, frissonnant et trempé, Eddie laissa échapper un long soupir rauque. Il écarta les lianes et vit le fusil et le casque toujours plantés dans le sol. Il se rappela que les soldats faisaient ça pour indiquer la tombe de leurs morts. Il sortit en rampant. Tout là-bas, sous une petite crête, il vit les ruines d'un village bombardé et brûlé, réduit à un tas de décombres. Ébahi, Eddie regarda un moment ce spectacle, la bouche grande ouverte et les yeux tentant de se focaliser sur la scène. Puis, sa poitrine se serra comme celle d'un homme qui viendrait de recevoir de mauvaises nouvelles. Cet endroit, il le connaissait. Il avait hanté ses rêves. « Variole !» lança soudain une voix. Eddie fit volte-face. « Variole, typhoïde, tétanos, fièvre jaune. » La voix venait de là-haut, quelque part, dans les arbres. « Impossible de savoir ce que c'était, cette maudite fièvre jaune. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui l'ait eue. » La voix était forte, avec un léger accent traînant du sud et les intonations rocailleuses d'un homme qui aurait hurlé pendant des heures. « J'ai fait faire tous les vaccins nécessaires contre ces fichues maladies, et je suis mort ici quand même, solide comme un roc. » L'arbre s'agita. Quelques petits fruits tombèrent au pied d'Eddie. « Tu les aimes, ces pommes ?» lui demanda la voix. Eddie se redressa, puis s'éclaircit la gorge. « Sortez de là » ordonna-t-il. « Monte !» lui répondit la voix. Et Eddie se retrouva pratiquement au sommet d'un arbre à la hauteur d'un immeuble. Juché à cheval sur une grosse branche, il vit la terre en dessous qui lui parut bien éloignée. Entre les branches plus fines et les grosses feuilles du banian, Eddie distingua vaguement les contours d'un homme en treillis militaire adossé au tronc. Son visage était recouvert d'une substance charbonneuse et ses yeux luisaient comme de minuscules ampoules rouges. Eddie eut de la peine à déglutir. « Capitaine ? » murmura-t-il. « C'est vous ?» Ils avaient servi ensemble dans l'armée. Le capitaine était le commandant d'Eddie. Ils avaient combattu ensemble aux Philippines, où leurs chemins s'étaient ensuite séparés. Après quoi, Eddie avait complètement perdu sa trace. Il avait entendu dire que le capitaine était mort au combat. Une volute de fumée de cigarette apparut. « Ils t'ont expliqué le règlement, soldat ?» Eddie baissa le regard. Il voyait la terre tout en bas, mais savait qu'il ne pouvait pas tomber. « Je suis mort, » répondit-il. « Affirmatif. Et vous aussi ?»« Affirmatif. Et vous êtes ma deuxième personne ?» Le capitaine tenait sa cigarette en l'air. Il sourit comme pour dire « Qui aurait cru qu'on fumait là-haut ?» Puis, il tira une longue bouffée et souffla un petit nuage blanc. « Je parie que tu ne m'attendais pas, hein ?» Eddie avait appris beaucoup de choses pendant la guerre. Conduire un tank, se raser avec de l'eau froide dans son casque, être prudent quand il tirait depuis un trou afin d'éviter de toucher un arbre ou d'être blessé par le retour d'un éclat. Il avait appris à fumer, à marcher au pas, à franchir un pont de corde tout en portant une capote, une radio, une mitraillette, un masque à gaz, un trépied de mitrailleuse, un paquetage et plusieurs cartouchières sur l'épaule. Et il y avait appris à boire le café le plus infect de sa vie. Il avait appris quelques mots dans quelques langues étrangères et à cracher très loin. Il avait appris le hourra nerveux du soldat ayant survécu à son premier combat quand les hommes se donnent l'accolade et sourient comme si c'était fini. « On peut rentrer chez nous maintenant !» Et il avait appris l'effondrement dépressif du second combat quand le soldat prend conscience que le premier sera suivi de beaucoup d'autres. Il avait appris à siffler dents serrées, à dormir sur un sol caillouteux. Il avait appris que la gale était occasionnée par des bestioles urticantes qui s'enfoncent sous la peau, surtout si l'on a porté les mêmes vêtements sales toute une semaine. Il avait appris que les os d'un homme sont vraiment blancs quand ils transpercent brutalement sa peau. Appris à prier en vitesse et dans quelle poche garder les lettres adressées à sa famille et à Marguerite au cas où on le retrouverait mort avec ses camarades. Il avait appris que parfois, l'on est dans une tranchée aux côtés de l'un de ses camarades, justement, à grommeler qu'on a faim. L'instant d'après, un petit vouf, et le camarade tombe, après quoi la faim est le cadet de ses soucis. Et alors qu'une année se transformait en deux années, puis en trois, il avait également appris que même les durs à cuire et les gros bras vomis sur leur godillot au moment d'être parachutés, et que, la veille d'un combat, les officiers aussi parlent dans leur sommeil. Il avait appris comment faire un prisonnier, mais jamais comment en devenir un, par contre. Comme cette nuit sur une île des Philippines, où son unité avait été prise dans une fusillade impressionnante et où il s'était dispersé pour se mettre à l'abri. Le ciel s'était embrasé et Eddie avait entendu l'un de ses copains pleurer au fond d'un fossé comme un gosse. Il lui avait hurlé « La ferme !» Puis, s'était aperçu que l'homme pleurait parce qu'un soldat ennemi était penché au-dessus de lui, un fusil sur sa tempe. Eddie avait senti alors quelque chose de froid sur son cou et découvert qu'il y avait un autre soldat ennemi juste derrière lui. Le capitaine écrasa sa cigarette. Il était plus âgé que les hommes de l'unité d'Eddie. C'était un militaire de carrière. Efflanqué, l'air conquérant et le menton proéminent, il ressemblait à un acteur de cinéma de l'époque. La plupart des soldats l'appréciaient, bien qu'il fût colérique et qu'il eût pris la sale manie de vous hurler tellement près du visage que l'on voyait ses dents, prématurément jaunies par le tabac. Mais le capitaine promettait toujours qu'il ne laisserait personne en rade, quoi qu'il advienne, et ça, ça réconfortait ses hommes. « Capitaine, » répéta Eddie, encore sous le choc. « Affirmatif. Mon capitaine, pas la peine, mais merci quand même. C'est... Vous avez le même air que la dernière fois où tu m'as vu, » dit-il avec un grand sourire. Puis il cracha par-dessus la branche et vit l'air ahuri d'Eddie. « C'est vrai. Il n'y a pas de raison de cacher ici. On n'y tombe pas malade non plus. On respire toujours pareil et la tambouille est incroyable. » « La tambouille ? » Eddie se demandait bien de quoi il parlait. « Capitaine, écoutez, c'est une erreur. Je sais toujours pas pourquoi je suis ici. » J'avais une vie sans intérêt comme préposé à l'entretien. Depuis des années, je vivais dans le même appartement. Je m'occupais des manèges, des grandes roues, des montagnes russes, des petits bateaux lance-fusées, tout bêtes. Pas de quoi pavaner. Je me laissais porter, pour ainsi dire. Ce que je veux dire, c'est que... Eddie déglutit. Qu'est-ce que je fiche ici? Le capitaine le regarda avec ses drôles yeux brillants et Eddie s'interdit de poser l'autre question qui l'inquiétait. Maintenant qu'il avait vu l'homme bleu, avait-il tué le capitaine aussi? « Tu sais, je me demandais, » dit le capitaine en se frottant le menton, « les hommes de notre unité, est-ce qu'ils sont restés en contact? Hein? Willigan, Morton, Smithy, tu les as revus? » Eddie se souvenait des noms. Et non, ils n'étaient pas restés en contact. La guerre a la faculté d'aimanter des hommes entre eux, puis celle de les repousser ensuite. Tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils avaient fait, parfois ils souhaitaient avant tout l'oublier. « Non, capitaine, on n'est pas resté en contact. Il haussa les épaules. « Désolé. » Le capitaine hocha la tête comme s'il s'y attendait. « Et toi, tu es retourné dans cette fête foraine où on avait tous promis d'aller, si on en sortait vivant? Des tours gratuits pour tous les GI, deux filles par mec dans le tunnel des amours? C'était bien ça que tu nous avais promis. » Eddie souriait presque. Oui, c'était bien ce qu'il avait dit. Ce qu'ils avaient tous dit. Mais une fois la guerre finie, aucun d'eux n'y était venu. « Ouais, j'y suis retourné, » répondit Eddie. « Et alors ?»« Et alors ?»« J'en suis jamais reparti. »« J'ai essayé pourtant. J'ai fait des projets. » »« Mais il y avait cette satanée jambe, je ne sais pas. Rien n'a marché comme je voulais. » Eddie haussa les épaules. Le capitaine scruta son visage. Ses yeux se rétrécirent. Il baissa la voix. « Tu jongles toujours ?» lui demanda-t-il. « Allez, avancez ! Avancez !» Les soldats ennemis hurlaient en les poussant à coups de baïonnette. Eddie, Smithy, Morton, Rabazzo et le capitaine furent regroupés en bas d'une colline escarpée, mains sur la tête, tandis que des obus de mortier explosaient tout autour d'eux. Eddie vit une silhouette courir entre les arbres, puis tomber sous une rafale de balles. Il essaya de photographier mentalement leur marche nocturne, cabane, route, tout ce qu'il parvenait à distinguer, sachant l'importance de telles informations en cas d'évasion. Un avion vrombissait au loin, emplissant Eddie d'une vague de désespoir aussi brutale qu'écœurante. C'est là la torture intérieure du prisonnier, cette distance infime entre la liberté et la captivité. Si seulement Eddie avait pu bondir et agripper l'aile de cet avion, il aurait pu fuir loin de cette magistrale erreur. Au lieu de quoi, lui et les autres étaient attachés aux poignets et aux chevilles. Et ils furent jetés dans un baraquement en bambou construit sur pilotis au-dessus d'un sol boueux. Ils restèrent là des jours, des semaines, des mois, avec en guise de matelas des sacs de toile bourrés de paille. Une cruche en argile faisait office de lavabo. La nuit, les gardiens ennemis rampaient sous la cabane pour écouter leur conversation. Avec le temps, de toute façon, ils parlèrent de moins en moins. Ils maigrissaient, s'affaiblissaient, on voyait leurs côtes, même chez Rabazzo, qui était pourtant un gars rondouillard au début. Leur nourriture, des boulettes de riz trop salées et un brouet brunâtre dans lequel flottait de l'herbe. Un soir, Eddie retira du bol un frelon mort qui avait perdu ses ailes, ce qui coupa immédiatement l'appétit de ses compagnons. Leurs ravisseurs ne savaient trop que faire d'eux. Le soir, ils entraient avec leurs baïonnettes en leur agitant les pointes sous le nez, leur hurlaient dessus dans une langue étrangère, puis semblaient attendre une réponse sans succès. Ils n'étaient que quatre, pour autant qu'Eddie put en juger, et le capitaine estimait ces quatre-là coupés d'une unité plus importante et devant aviser au jour le jour, ainsi que cela arrive souvent dans la vraie guerre. Leurs visages décharnés et osseux étaient surmontés de touffes de cheveux noirs. L'un d'eux paraissait trop jeune pour être soldat. Un autre avait les dents tordues comme Eddie n'en avait jamais vu de sa vie. Le capitaine les avait surnommés « Cinglé numéro 1 »,« Cinglé numéro 2 »,« Cinglé numéro 3 » et « Cinglé numéro 4 ».« Pas question de connaître leur nom », avait-il dit. « Ni qu'eux connaissent les nôtres. » Les hommes s'adaptent à la captivité, et certains mieux que d'autres. Morton, un jeune efflanqué volubile originaire de Chicago, s'agitait chaque fois qu'il entendait un bruit au dehors, se frottant alors le menton en marmonnant « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» jusqu'à ce que les autres lui ordonnent de la fermer. Smithy, fils d'un pompier de Brooklyn, était la plupart du temps tranquille, mais au moult va-et-vient de sa pomme d'Adam, on voyait qu'il déglutissait fréquemment. Eddie apprit par la suite qu'en fait, il se mâchait la langue. Rabazzo, le jeune rouquin de Portland, dans l'Oregon, offrait dans la journée un visage impassible, mais se réveillait souvent la nuit en criant « Pas moi! Pas moi !» Eddie, lui, bouillonnait en quasi-permanence. Il serrait le poing et de ce poing serré, à l'image du joueur de baseball anxieux de ses jeunes années, il se frappait la paume de l'autre main des heures d'affilée, ce qui mettait ses articulations à vif. La nuit, il rêvait qu'il était de retour dans Ruby Pier, sur les poneys de ce manège où cinq personnes tournaient en rond jusqu'à ce que retentisse une sonnerie. Il y était en compétition avec ses copains, ou son frère, ou Marguerite. Puis, le rêve se transformait et voilà que c'étaient les quatre cinglés qui chevauchaient les poneys voisins à présent et qui le cognaient en ricanant. Des années d'attente là-bas. Qu'un tour finisse, que les vagues se retirent, que son père lui parle, avait fait d'Eddie un expert en patience. Mais il avait atteint ses limites et bien envie que le vent tourne à présent. Il serrait les mâchoires en se frappant la paume et pensait à toutes les bagarres auxquelles il avait participé dans son quartier d'antan, dont la fois où il avait envoyé deux gamins à l'hôpital d'un seul coup de couvercle de poubelle. Il s'imaginait ce qu'il aurait fait à ses gardes s'il n'avait pas eu de fusil. Un beau matin, les prisonniers furent réveillés par des cris, l'éclat de baïonnettes et les quatre cinglés les firent lever, les attachèrent, puis les emmenèrent le long d'un tunnel. Il n'y avait pas de lumière et le sol était froid. Par contre, il y avait des pics, des pelles et des seaux. « Bordel, une mine de charbon !» s'exclama Morton. Dès ce jour-là, Eddie et les autres furent obligés de gratter le charbon des murs pour appuyer l'effort de guerre ennemi. Certains pelletaient, d'autres arrachaient, d'autres encore transportaient des morceaux d'ardoise ou construisaient des étais pour soutenir le plafond. Ils n'étaient pas les seuls prisonniers. Il y avait aussi là des non-anglophones qui regardaient Eddie de leurs yeux vides, interdit de s'adresser la parole. Un gobelet d'eau toutes les quelques heures. À la fin de la journée, les visages des prisonniers étaient incroyablement noirs et ils souffraient d'élancements dans le cou et les épaules à force d'être restés courbés. Durant les tout premiers mois de sa captivité, Eddie s'endormit avec la photo de Marguerite dans son casque qu'il posait devant lui. Il n'était pas porté sur la prière, mais il priait quand même, formant les mots et tenant le compte chaque jour. « Seigneur, je vous donnerai ces 6 jours contre 6 jours avec elle. Je vous donnerai ces 9 jours contre 9 jours avec elle. Je vous donnerai ces 16 jours contre 16 jours avec elle. » Puis, au cours du 4e mois, Rabozo fut atteint d'une méchante éruption cutanée, doublée d'une grave diarrhée et donc dans l'incapacité de manger. La nuit, il sua tellement dans ses vêtements dégoûtants qu'il les trempa complètement. Il fit sous lui. Comme il n'y avait aucun habit de rechange à lui donner, il dormit nu sur son sac en toile et le capitaine lui offrit le sien en guise de couverture. Le lendemain, c'est tout juste si Rabozo pouvait tenir debout au fond de la mine. Les quatre cinglés furent impitoyables. Dès qu'il ralentissait, il le poussait à coups de bâton pour qu'il continue de gratter. « Laissez-le tranquille !» gronda Eddie. Cinglé numéro 2, le plus brutal de leurs gardes, frappa Eddie de la crosse de sa baïonnette. Eddie s'effondra, une douleur cuisante entre les omoplates. Rabozo gratta encore quelques morceaux de charbon, puis s'effondra à son tour. Cinglé numéro 2 lui cria après « pour qu'il se relève !»« Il est malade !» hurla Eddie en se remettant péniblement debout. D'un seul coup, cinglé numéro 2 le renvoya par terre. « Ferme-la, Eddie !» murmura Morton. « Ça vaut mieux pour toi. » Cinglé numéro 2 se pencha au-dessus de Rabozo. Il lui souleva les paupières. Rabozo gémit. Cinglé numéro 2 lui adressa alors un immense sourire et gazouilla comme un bébé. Puis il fit « Ah !» et éclata de rire. Il riait en les regardant tous les yeux dans les leurs, s'assurant que tous le regardaient bien. Après quoi, il sortit son revolver, l'enfonça dans l'oreille de Rabozo et tira. Eddie sentit son corps se fendre en deux. Ses yeux se brouillèrent et son cerveau s'obscurcit. L'écho du coup de revolver flotta dans la mine tandis que le visage de Rabozo baignait dans une mare de sang qui n'en finissait pas de s'élargir. Morton se mit la main sur la bouche. Le capitaine baissa les yeux. Personne ne bougea. À coups de godillot, cinglé numéro 2 lui recouvrit le corps de poussière noire. Puis il regarda Eddie d'un air méchant et cracha à ses pieds. Il hurla quelque chose à cinglé numéro 3 et cinglé numéro 4, qui paraissaient aussi médusés que les prisonniers. Un instant, cinglé numéro 3 secoua la tête et se mit à marmonner en remuant furieusement les lèvres. Paupières baissées, on aurait dit qu'il récitait une prière. Mais cinglé numéro 2 agita son fusil, hurla de nouveau, et cinglé numéro 3 et cinglé numéro 4 saisirent le corps de Rabozo par les pieds et le tirèrent sur le sol, laissant derrière eux une traînée de sang humide qui, dans l'obscurité, pouvait ressembler à de l'essence. Ils le laissèrent retomber contre un mur, à côté d'un piolet. À partir de ce jour-là, Eddie cessa de prier, tout comme il cessa de compter les jours. Le capitaine et lui ne parlaient plus que de s'évader avant de subir le même sort. Selon le capitaine, l'effort de guerre ennemi était désespéré. C'est pourquoi ils avaient besoin de chaque prisonnier, même à demi-mort, pour arracher du charbon. Au fil des jours, il y avait d'ailleurs de moins en moins de prisonniers au fond de la mine. Et la nuit, Eddie entendait les bombardements qui semblaient se rapprocher. Selon le capitaine, si les choses tournaient mal, leurs gardes n'hésiteraient pas à tout raser. Il avait vu des fossés creusés sous les baraquements des prisonniers, ainsi que de grands barils d'essence au sommet de la colline escarpée. « C'est pour brûler les preuves, » murmura le capitaine. « Ils creusent nos tombes. » Trois semaines plus tard, sous un clair de lune brumeux, c'est Cinglé numéro 3 qui était de garde dans les baraquements. Il s'était saisi de deux grosses pierres, presque aussi grosses que des briques, avec lesquelles il essayait de jongler pour passer le temps. Il n'arrêtait pas de les laisser tomber, de les ramasser, de les jeter bien haut dans les airs, puis de les laisser à nouveau tomber. Dérangé par ce bruit sourd, Eddie, recouvert de suie, ouvrit les yeux. Il avait tenté de dormir, mais voilà qu'à présent, il se soulevait doucement. Une fois qu'il y vit plus clair, il sentit alors ses nerfs reprendre vie. « Capitaine, chuchota-t-il, prêt à foncer ?» Le capitaine leva la tête. « À quoi tu penses ?»« À ces pierres. » Eddie fit un signe de tête vers le garde. « Eh bien quoi ?» lui demanda le capitaine. « Je sais jongler. » murmura Eddie. Le capitaine jeta un regard de côté. « Quoi ?» Mais Eddie criait déjà au garde. « Hé, toi ! Tu fais tout de travers !» De sa paume, il effectua un geste circulaire. « Comme ça ! Il faut faire ça comme ça, là ! Donne !» Il tendit la main. « Je sais jongler, moi ! Donne !» Cinglé numéro 3 le regarda avec circonspection. De tous les gardes, Eddie sentait que c'était avec celui-là qu'il avait le plus de chance. Cinglé numéro 3 avait parfois glissé aux prisonniers des morceaux de pain par la petite ouverture dans la cabane, faisant office de fenêtre. Eddie refit le mouvement circulaire et sourit. Cinglé numéro 3 s'approcha, s'arrêta, repartit chercher sa baïonnette, puis fit rouler les deux pierres dans la direction d'Eddie. « Comme ça !» dit Eddie, qui se mit alors à jongler sans le moindre effort. Il avait appris à l'âge de 7 ans, auprès d'un forain italien capable de faire tourner 6 assiettes en même temps. Eddie avait passé un nombre d'heures incalculable à s'entraîner sur la promenade avec des galets, des balles en caoutchouc et tout ce qui lui tombait sous la main. Ce n'était rien d'exceptionnel. Pratiquement tous les enfants de Ruby Pier savaient jongler. Mais cette fois-ci, il s'activait furieusement avec les deux pierres, jonglant plus vite afin d'impressionner le garde. Puis, il s'arrêta, tendit les pierres et dit « Donne-moi une autre. » Cinglé numéro 3 grogna. « Avec 3 pierres, tu vas voir ce que tu vas voir. » Eddie tendit 3 doigts. « 3 !» Voilà que Morton et Smithy s'étaient assis eux aussi. Le capitaine se rapprocha. « Où on va comme ça ?» marmonna Smithy. « Si tu peux en avoir encore une autre, » murmura Eddie. Cinglé numéro 3 ouvrit la porte en bambou et fit ce qu'Eddie espérait, c'est-à-dire appeler les autres à grands cris. Cinglé numéro 1 apparut avec une grosse pierre, suivie de cinglé numéro 2. Cinglé numéro 3 jeta la pierre à Eddie en hurlant quelque chose. Puis il se recula, tout en souriant aux autres, auxquels il fit signe de s'installer comme pour dire « Regardez-moi ça un peu ». Eddie lançait les pierres en cercle régulier et bien rythmé. Chacune avait la grosseur de sa paume. Il s'accompagnait en fredonnant une mélodie foraine. Ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Les gardes riaient. Eddie riait. Le capitaine riait. Un rire forcé, histoire de gagner du temps. « Rapprochez-vous !» chantonna Eddie, comme si les mots faisaient partie de la mélodie. Morton et Smithy s'avancèrent doucement, l'air faussement intéressé. Les gardes appréciaient le spectacle et leur vigilance se relâcha. Eddie essaya de retenir son souffle. Juste un tout petit peu plus longtemps, il lança une pierre très haut en l'air, jongla avec les 2 qui lui restaient, rattrapa la 3e, puis recommença. « Oh !» laissa échapper Cinglé numéro 3. « Ça te plaît ?» lui demanda Eddie. Le voici qui jonglait plus vite à présent, sans s'arrêter. Il jeta bien haut une pierre et observa les gardes qui la suivaient du regard. Il chantonnait ta-ta-ta-ta, puis je compte jusqu'à trois, et puis ta-ta-ta-ta, et puis capitaine, le gars de gauche. Cinglé numéro 2 eut un froncement de sourcils soupçonneux, mais Eddie sourit comme souriaient les jongleurs de Ruby Pier quand l'attention des spectateurs se relâchait. « Visez-moi un peu ça, visez-moi un peu ça, visez-moi un peu ça, » roucoulait Eddie, « le plus grand spectacle du monde, Raymond. » Eddie accéléra encore son rythme, puis il compta « 1, 2 » et lança une pierre encore plus haut que la fois précédente. Les cinglés la regardèrent monter et « On y va !» hurla Eddie. En plein jonglage, il s'empara d'une pierre et, tel le bon lanceur de baseball qu'il avait toujours été, la projeta violemment en plein visage de cinglé numéro 2, dont il cassa le nez. Puis il s'empara de la seconde pierre et la jeta de la main gauche en plein sur le menton de cinglé numéro 1 qui tomba en arrière, tandis que le capitaine intervenait pour s'emparer de sa baïonnette. Cinglé numéro 3, momentanément pétrifié, saisit son pistolet et tira comme un fou alors que Morton et Smithy le plaquaient aux jambes. La porte s'ouvrit à la volée et cinglé numéro 4 se précipita à l'intérieur. Eddie le visa avec la dernière pierre et manqua sa tête de quelques centimètres, mais comme il plongeait, le capitaine adossé au mur avec la baïonnette lui transperça le thorax si fort qu'ils passèrent tous deux brutalement par la porte. Dopé à l'adrénaline, Eddie bondit sur cinglé numéro 2 et lui boxa le visage plus fort qu'il ne l'avait jamais fait sur Pitkin Avenue. Il saisit une pierre qui traînait et lui en martela le crâne sans répit jusqu'à ce qu'il remarque ses mains et y voit un horrible magma se révélant être un mélange de sang, de peau et de suie. Puis il entendit une détonation et se prit le crâne, souillant ses tempes de magma. Il leva les yeux et vit Smithy debout au-dessus de lui, un pistolet ennemi à la main. Le corps de cinglé numéro 2 retomba mollement. Le sang s'écoulait de sa poitrine. « En hommage à Rabozzo !» marmonna Smithy. En quelques minutes, les quatre gardes étaient morts. Maigres, décharnés, nu-pieds et couverts de sang, les prisonniers se dirigèrent en courant vers la colline escarpée. Eddie s'attendait à des coups de feu, à d'autres gardes qu'il faudrait combattre, mais non. Les autres cabanes étaient vides. En fait, le camp entier était vide. Eddie se demanda depuis combien de temps les quatre cinglés et eux étaient seuls ici. « Les autres ont dû prendre la fuite en entendant le bombardement, » chuchota le capitaine. « On doit être le dernier groupe. » Les barils d'essence étaient plantés sur le premier redan de la colline. À moins de 500 mètres se trouvait l'entrée de la mine de charbon. Il y avait une cabane de réserve à côté, et après s'être assuré qu'elle était vide, Morton s'y précipita. Il en ressortit avec une brassée de grenades et de fusils, ainsi que deux lance-flammes d'aspect primitif. « Mettons-y le feu, » dit-il.